Chloé Bertolus, bonjour. Nous sommes honorés de vous recevoir. Vous êtes chef du service chirurgie maxillofaciale à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc vous passez le plus clair de votre temps dans le bloc opératoire pour réparer des visages comme celui par exemple de Philippe Lançon, journaliste touché lors de l'attentat Charlie Hebdo en janvier 2015. Vous avez été par la suite extrêmement médiatisé suite à l'apparition de son livre Le Lambeau en avril 2018, qui raconte de quelle manière vous l'avez reconstruit. Nous vous accueillons aujourd'hui au sein de la web radio du lycée Louis Armand à Aubonne afin d'échanger sur votre parcours unique. En quoi votre vécu en tant que femme chirurgienne peut être symbole de l'évolution de la place des femmes dans la société? Et êtes-vous, de par votre place dans le secteur médical, une femme de pouvoir? Et d'ailleurs, préférez-vous le terme chirurgien ou chirurgienne?
Alors ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup et j'ai pour habitude de dire que chirurgienne, c'est pas très joli, c'est pas très euphonique, comme on dit. Donc je considère que chirurgien, ça me va très bien. J'ai pas besoin qu'on rajoute NE à mon nom pour me sentir une femme. Mais ça n'est pas tellement dans l'air du temps de répondre ça.
Donc moi, je m'appelle Lina et j'ai une question à vous poser. Donc est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant votre parcours avant d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui?
Alors, c'est un parcours long et difficile de devenir chirurgien. Pas un truc facile, vous le savez. Les études de médecine sont jalonnées de concours plutôt sélectifs. Il faut commencer par avoir son concours de première année, et puis il faut avoir l'internat, et puis il faut l'avoir en rang, ce qu'on appelle être en rang utile pour choisir la spécialité à laquelle on se destine, pour en plus donc faire son troisième cycle dans la ville et dans l'université qui nous intéresse. Donc il y a là des choses compliquées. Ensuite, il faut continuer en étant chef de clinique et puis rentrer dans la carrière universitaire en produisant, en plus de son travail clinique, du travail de recherche, donc faire une thèse de troisième cycle dans un domaine de recherche fondamental, en plus de la thèse de médecine qui est plutôt une formalité qu'autre chose. Donc les étapes sont longues et compliquées, pour tout le monde. Je ne crois pas que le fait d'être une femme rende les choses plus complexes. Jusqu'à l'accession, si on peut dire, au titre et au rang de chef de service, je n'avais jamais ressenti la moindre différence. Je dirais que là où l'air se raréfie un peu, où on est moins nombreux et où les appétits donc sont peut-être plus violents, pour la première fois, je suis chef de service depuis 2 ans à peu près, et c'est maintenant, je me dis, certaines choses sont faites comme ça parce que je suis une femme, on ne ferait pas comme ça avec un homme. Et quand je dis « on », je parle entre autres des rapports avec l'administration hospitalière qui peuvent être extrêmement complexes et qui peut-être ne sont pas simplifiés par le fait d'être une femme. Voilà.
Donc moi j'aimerais aussi vous poser une question. Vous êtes donc maintenant chef de chirurgie maxillofaciale et par conséquent vous avez un certain pouvoir. Et considérez-vous que vous l'exercez de la même façon que vos confrères masculins ou pas?
Alors, pouvoir, eh bien, à dire vrai, je ne sais pas très bien sur quoi. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités, ça c'est sûr, énormément de responsabilités, mais malheureusement, pas réellement le pouvoir qui va avec. Le seul moment où un chirurgien a réellement du pouvoir, c'est dans sa relation singulière avec son patient, c'est pendant qu'il est en train d'opérer, finalement. Où il décide... en ayant littéralement la vie de son patient entre les mains, où il décide de faire comme ça ou comme ça, ce qui est un exercice du pouvoir. Mais si, par exemple, j'ai une secrétaire nulle, bon, Dieu soit loué, ce n'est pas le cas, si j'ai une infirmière qui fait difficilement l'affaire ou qui n'est pas très gentille avec les patients, si j'ai une assistante sociale qui est incapable de trouver l'aide dont mon patient a besoin, etc., je peux faire des pieds et des mains, on ne me la changera pas, hein. Donc en fait, j'ai pas un pouvoir immense. Le pouvoir est beaucoup entre les mains de l'administration dans les hôpitaux.
Et donc, par conséquent, vous considérez que un homme qui aura exactement le même pouvoir que vous pourra, par exemple, lui, par pur caprice, entre guillemets, changer de secrétaire quand il le voudra, contrairement à vous qui peut se démener pour le faire et ne daignera pas changer de secrétaire.
Eh bien, écoutez, c'est une question que je me pose. Je vois effectivement certains collègues se rouler par terre dans le bureau de la direction jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent, mmh. exercice auquel je ne me plie pas, par exemple. Mais ça, c'est peut-être moi qui me restreins dans mes capacités de nuisance. Hein. Je ne sais pas faire ça. Et c'est vrai que je vois des gens avoir plus de facilité à exercer comme ils l'entendent, disons, à obtenir les moyens dont ils ont besoin, etc. Je ne l'ai pas. La façon dont on parle à l'extérieur d'un chef de service femme ou d'un chef de service homme est très différente. Par exemple, j'ai appris par la bande, enfin par comme ça, de façon collatérale, que j'étais autoritaire. Et ça me fait rigoler parce que on ne dirait jamais d'un chef de service en chirurgie homme qu'il est autoritaire. Il l'est par essence. On va pas le qualifier d'autoritaire. On serait surpris qu'il ne le soit pas. Mais de moi, on va dire que je suis autoritaire. Parce qu'effectivement, une femme, ça doit être doux et gentil. Et si, dans un service dans lequel il est indispensable, il y a 250 personnes qui bossent dans cette baraque, si à un moment ou un autre, je dis pas c'est comme ça et pas autrement, ça tourne pas, hein, pas compliqué. Et puis, un bloc opératoire, c'est comme un bateau. Il y a un seul capitaine. C'est-à-dire que quand ça commence à pas aller très droit parce qu'il y a coup de vent, il y a une personne qu'on écoute et pas deux. Donc, l'autorité s'exerce forcément, si ce n'est le pouvoir. Eh bien, on peut dire de moi que je suis autoritaire. Alors que la porte de mon bureau est ouverte en permanence et que la première personne qui a un problème vient me voir parce que, avant de rentrer dans notre entretien, là, il y avait un garçon du bloc opératoire, donc un aide-soignant, les gens qui nous aident à installer les gens, à nettoyer le matériel, etc., qui m'appelait sur mon portable parce qu'il trouvait plus, je sais même plus quelle personne, il m'appelait directement. Donc je pense que si j'étais monstrueusement autoritaire, ça n'existerait pas. Il passerait par des voies plus détournées et c'est pas moi qu'on appellerait quand on trouve pas l'interne ou je sais pas quoi, comme si l'interne était dans mon bureau, quoi. Donc je pense pas être terriblement autoritaire ni très impressionnante. Toujours est-il que la façon dont on me qualifie, c'est que je suis autoritaire. Donc il y a effectivement une différence de regard et une façon d'exercer ce fameux pouvoir, dont je ne sais pas très bien où il est, mais en tout cas, ça s'exerce différemment.
Et comment prenez-vous cette différence entre les genres et la distinction qui est assez frappante dans votre travail de tous les jours ?
J'essaye de le prendre avec beaucoup de distance, parce que je n'ai pas l'intention d'y laisser la peau. Vous le savez, quand on prend trop les choses à cœur, et j'ai tendance à prendre les choses très à cœur, c'est-à-dire, on l'a évoqué dans l'entretien tout à l'heure, les femmes ont une injonction de perfection, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient bien, autrement c'est notre faute si c'est pas bien, hein. Il y a vraiment ça, c'est ancré très profondément. Donc, quand il y a ces différences de traitement, j'essaye de ne pas les prendre trop à cœur, et de prendre de la distance, pour tenir la route, hein, pour tenir la distance justement, pour pas me rendre malade. Donc, je ne suis pas en permanence dans la comparaison avec mes collègues chefs de service, etc., dont certains sont logés à bonne enseigne et d'autres à mauvaise enseigne. Hein, et moi, personnellement, je me plains un peu là, mais enfin, ça va globalement. Hein. Mais il y a, mais je crois que ça, que je sois un homme ou une femme ne change rien à l'affaire, il y a dans ces très très grosses administrations énormes comme ça, une espèce de maltraitance institutionnelle qui fait qu'on vous fait pleurer pendant 3 ans pour avoir une agrafeuse. Et quand enfin vous avez une agrafeuse, vous êtes débordant de reconnaissance, alors que ça n'est qu'une agrafeuse et que vous auriez dû l'avoir le premier jour. Donc ça c'est quand même particulièrement pervers, mais on est quand même à peu près tous logés à la même enseigne. Mais certains s'en sortent mieux, et souvent ce sont des hommes.
Alors, on vous a déjà posé cette question précédemment lors de la table ronde, mais je vais vous la reposer. Donc, lors de l'opération l'opération de Philippe Lançon, elle a été fortement médiatisée. Est-ce que, au-delà, en fait, du geste professionnel, ça a été beaucoup plus que ça? Ça a été pour vous un acte citoyen, tout simplement, ou voire même politique?
Alors, d'abord, la médiatisation s'est faite a posteriori. C'est-à-dire que le jour où il est arrivé dans le bloc blessé et déjà endormi, il n'y avait pas de médiatisation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait surtout le GIGN dans le couloir du bloc opératoire, ce qui est un endroit un peu bizarre et qui m'a donné l'impression d'opérer sur un théâtre de guerre. Ce qui, ça, c'est assez perturbant parce que normalement à Paris, c'est pas la guerre. Il m'est déjà arrivé d'opérer dans des endroits proches de théâtres de guerre, etc., où effectivement on peut s'attendre à ce qu'il y ait des armes pas très loin, mais là c'est pas censé être le cas. On n'est pas en guerre. Donc ça, c'était un décalage comme ça. Mais la médiatisation, elle est survenue finalement assez longtemps après, et ça c'est une première chose. Et ensuite, quand on opère, C'est ce que je vais dire peut paraître parfaitement inhumain et pourtant je pense que ça ne l'est pas. Quand on opère, on ne pense absolument pas à la personne qu'on est en train d'opérer. On enlève tous les affects possibles et imaginables et on réalise un geste technique. Et c'est à ce prix-là qu'on le réalise avec la tête froide et la main qui ne tremble pas. Si on commence à penser, mais le pauvre, on lui a tiré dessus, mais la pauvre, elle a un cancer et lui, il a des enfants jeunes, il faut absolument que je réussisse mon geste parce que autrement son cancer va évoluer, il va mourir, que vont devenir ses enfants ? C'est la panique. Non, mais bien sûr, c'est trop terrible, c'est trop chargé. On est obligé de décharger émotionnellement le geste. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais pour être capable de le faire avec sérénité et avec éventuellement, effectivement, cette acceptation de l'échec. On peut ne pas réussir une intervention chirurgicale.
Tout à l'heure, précédemment, lors de la table ronde, vous avez dit que vous n'étiez pas forcément une bonne citoyenne, mais pour vous, c'est quoi la citoyenneté, en fait, en soi ?
Bah, je pense que c'est se préoccuper beaucoup plus que je ne le fais des affaires de la cité. Peut-être qu'un bon citoyen, c'est quelqu'un qui, comme je le disais aussi tout à l'heure, ne se contente pas de râler, mais agit. Moi, je râle beaucoup. Il y a des trucs qui m'embêtent, il y a des machins qui se passent de façon, je trouve, un peu folle, etc. Mais pour autant, je ne me suis jamais présentée aux élections pour dire, voilà, je vais essayer de changer ça. Donc c'est en ce sens que pas être une bonne citoyenne, ça ne veut pas dire être une mauvaise citoyenne. Je précise, je paye mes impôts, je n'ai encore jamais renversé une vieille dame en voiture et je serai partie ensuite en faisant un délit de fuite. Je ne parle pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que je ne suis pas très impliquée dans les affaires de la cité. Je suis impliquée, je pense, beaucoup dans ma profession. C'est-à-dire que je siège au conseil de ma fac, j'ai été élue récemment au conseil régional de l'ordre des médecins, etc. Donc je m'implique, mais ça reste dans ma sphère professionnelle. Et je pense que il faudrait faire plus, il faudrait arrêter de râler et faire plus, et là je me sentirais une bonne citoyenne. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui fait, je crois.
Quelles sont en fait les sources de votre engagement, tout d'abord ? Et ensuite, donc c'est quoi pour vous aujourd'hui les gueules cassées auxquelles vous êtes face à l'hôpital ?
Alors, vous m'avez posé deux questions. La première, les sources de mon engagement. Eh bien, voyez-vous, je ne me disais pas quand j'ai commencé mes études de médecine, quand j'aurais presque 50 ans, je serais chef de service à la Pitié-Salpêtrière et je réparerais des gueules cassées. Mais alors, pas du tout. J'ai choisi médecine un petit peu par défaut. En fait, je faisais des études scientifiques comme tout le monde, mais j'étais plutôt calée dans les humanités. C'est-à-dire, j'avais passé le concours général en philo, tout ça. Et je disais à mes parents, je vais faire Sciences Po, je vais faire l'ENA. Et ils me répondaient, mais pourquoi faire ? Donc il fallait que je sorte un métier. Bon, je ne pouvais pas être architecte, je dessine comme un pied. Donc est arrivé le moment, j'ai dit, je vais faire médecine. Mais vraiment, c'est un peu par j'avais pas une vocation profondément ancrée. Et en fait, maintenant, je ne referai pas autre chose. C'est-à-dire que c'est venu au fur et à mesure et j'ai vraiment découvert un métier absolument passionnant, mais j'avais pas une vocation super ancrée. Et donc, vous me parliez d'où venait ma motivation. Non, mon engagement. Voilà, en fait, c'est par défaut. J'ai choisi médecine par défaut. C'est pas bien, hein. J'aimerais vous dire, depuis que j'ai 3 ans, j'ai toujours rêvé de sauver le monde. C'est pas vrai du tout. J'ai trouvé que c'était un métier, au fur et à mesure que je l'ai découvert pendant mes études, parce que vous savez qu'on est, on est projeté très vite à l'hôpital dans les études de médecine en France, hein. Moi, j'ai vu mes premiers patients, j'avais 19 ans, quoi. Donc, on y va, quoi. Hein. Et j'ai découvert une vraie satisfaction, un vrai épanouissement là-dedans, mais pour des choses que j'imaginais pas forcément. Je crois aussi que j'ai un caractère assez heureux. J'aurais fait n'importe quoi, j'aurais trouvé que c'était bien. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Ensuite, vous m'avez demandé quelles sont les gueules cassées d'aujourd'hui. Les gueules cassées d'aujourd'hui, alors à part effectivement quelques personnes qui se font tirer dessus, mais c'est quand même pas le quotidien. Ce qu'on peut voir principalement, en tout cas dans mon service, c'est des gens qui sont défigurés par un cancer. Auquel on est obligé d'enlever une partie de la mâchoire parce qu'il y a un cancer de la gencive qui s'est développé dans l'os, auquel on est obligé d'enlever une partie de la langue parce qu'ils ont un cancer de la langue, voire des destructions bien plus importantes où on enlève par exemple tout l'os maxillaire, l'os maxillaire c'est le haut comme ça, jusqu'à l'orbite en enlevant l'œil, etc. Donc ça, c'est pour nous actuellement dans un pays en paix, relativement en paix, ce sont les grands pourvoyeurs de gueules cassées. Aux États-Unis, ce sont les plaies par arme à feu, où beaucoup de gens sont armés, hein, vous le savez, vous avez entendu parler de tous ces drames de fusillades collectives, etc. Les plaies par arme à feu continuent à être un grand pourvoyeur de gueules cassées. Chez nous, bon, bah, à part ces événements spéciaux, des attentats, et puis des gens qui tentent de se suicider avec une arme à feu, on n'a plus beaucoup de ces blessures balistiques, hein, Dieu soit loué, mais ce qui les a remplacées sont vraiment les cancers et puis quelques accidents graves de la voie publique, des choses comme ça.
Quel conseil donneriez-vous à un élève inspiré par un parcours scientifique et d'engagement comme le vôtre ?
Il faut travailler. C'est pas drôle, hein. Il faut travailler vraiment comme un abruti, c'est ça qui est terrible. Il faut travailler, il ne faut pas avoir peur, en ce sens que la médecine, en fait, ce n'est pas très compliqué. On ne vous demande pas, on vous demande pas beaucoup d'imagination, on vous demande beaucoup de... C'est un peu bourrin, quoi. Il faut apprendre, apprendre, apprendre. Alors c'est sûr que si on est un peu intelligent, c'est plus facile d'apprendre, c'est toujours la même chose, hein. On fait plus facilement des associations entre les choses, on comprend mieux, on conçoit mieux un système, on a plus d'esprit de synthèse. Donc ça rend probablement les choses plus faciles, mais ce ne sont pas des études où on vous demande d'avoir de la créativité comme des études scientifiques passant par les écoles d'ingénieurs, etc. Ce ne sont pas des études où on vous demande d'avoir un talent particulier. Je parlais de l'architecture tout à l'heure. Si vous dessinez vraiment comme un manche, c'est difficile d'être un bon architecte, quoi. Ça peut peut-être s'apprendre, mais voilà, voilà. La médecine, ça demande du travail et de l'abnégation et beaucoup de une grande capacité de travail, beaucoup de résistance à la fatigue, une capacité... Alors, je ne sais pas comment ça sera dans les temps qui viendront, mais jusqu'à présent, les gens qui préparent l'internat vont à l'hôpital le matin, en cours l'après-midi, et dans ce qu'on appelle les conférences d'internat, 3 fois par semaine, le soir de 18h à minuit. Donc il faut y aller, plus les gardes quand même, une autre nuit ou deux passer en garde. Donc on y passe un peu sa jeunesse, mais ça vaut le coup.
Moi, j'aimerais savoir, suite à l'opération de Philippe Lançon et la forte médiatisation qui est autour, est-ce que ça a bouleversé des petits changements au sein de votre travail professionnel, si vous avez eu plus de pression que d'habitude par rapport à des éloges qu'on a pu vous faire grâce à cette opération?
Alors, c'est une médiatisation dont j'ai honteusement profité pour faire sortir ma spécialité de son placard. Parce qu'en fait, la chirurgie maxillofaciale, peu de gens savent ce que c'est. Peu de gens savent que ça existe. Peu de gens savent qu'on peut se casser la mâchoire. Peu de gens savent que ça se passe chez nous. Et on est une spécialité dite au ministère spécialité à faible effectif. Ça veut dire qu'on est 3 Pékin, quoi, en fait. C'est une façon spécialité à... Même pas faible, c'est pas faible. C'est un mot encore plus à effectif modeste. Enfin, je sais plus quel est le terme. On n'est pas nombreux. On est 30 profs d'université de chirurgie maxillofaciale en France. Il y a au moins 120 profs de pneumologie rien qu'à Paris. D'accord ? C'est pour vous donner une idée de la... Voilà. Et j'ai... Et honteusement profiter de cette médiatisation pour faire dire chirurgie maxillofaciale aussi souvent que possible. Le précédent pic de popularité de cette spécialité, ça a été quand mon éminent collègue Bernard de Vauchel à Amiens a fait en 2005 la première greffe de visage. Alors vous étiez à peine né, c'est pas forcément quelque chose qui vous parle beaucoup, mais ça a été une révolution. Il a fait la une de Time Magazine comme l'homme de l'année quand même, hein, c'est un truc. Et il est chirurgien maxillofacial. Pour nous, ça a été à l'époque. Voilà. Et puis après ça, les choses retombent un peu. Et donc régulièrement, il faut faire parler de cette spécialité. Et toutes les occasions sont bonnes. J'espérais que j'aurais peut-être plus de moyens pour mon service, des kinésithérapeutes en masse, des orthophonistes, tous les gens dont j'ai besoin pour éduquer mes patients. Pas du tout. Pas du tout. L'hôpital est là pour vous envoyer des mots de félicitations quand vous recevez la Légion d'honneur, mais quand vous demandez une infirmière, niette, il n'y a personne. Voilà. Donc en fait, et puis attendez, puis ça fait très plaisir, hein. C'est vachement agréable, hein, d'aller faire les studios de télé, les enregistrements de radio et tout. Il ne faut pas jouer les faux modestes, hein. C'est hyper sympa d'être populaire, hein.
Tiens, à vous remercier tous ici présents et aussi le lycée Loiremont d'être venu, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné des réponses construites. Et donc, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, vous êtes vraiment extraordinaire.